témoignage d'Écossais,
Stéphane de Masure, Christian Mercier.
Chaque philosophe, chaque penseur, chaque tradition a une image d'un dieu différent.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Témoignages écossais exceptionnel consacré aux lauréats de la première édition du prix littéraire organisé par les Rencontres écossaises. Je rappelle que les Rencontres écossaises réunissent chaque année, la première fin de semaine d'octobre, toutes les sœurs et tous les frères qui se reconnaissent dans l'écossisme autour d'un thème de réflexion, des conférences et une table ronde. Elles ont eu lieu cette année à Angers sur le thème de dire, parole et langage et ont donc vu la reconnaissance de l'ouvrage d'un écrivain français majeur, philosophe et sociologue, auteur de plus de 50 ouvrages traduits dans une vingtaine de langues et vendus à 10 millions d'exemplaires dans le monde. Frédéric Lenoir, bonjour.
Bonjour.
Et félicitations pour ce prix qui vous a été remis pour votre ouvrage publié chez Albin Michel et intitulé « Jung, un voyage vers soi ». Merci de vous être rendu disponible pour cet enregistrement et avant de nous plonger avec vous et délectation dans ce voyage intime, je tiens à saluer la présence dans notre studio de Georges Bernat Ivicens, animateur du site littéraire La Griffe et grand organisateur du prix littéraire des Rencontres écossaises qui va aujourd'hui animer Témoignages écossais à mes côtés en lieu et place de Christian, que nous retrouverons dès notre prochain épisode. Georges, bonjour.
Bonjour Stéphane, bonjour Frédéric.
Bonjour.
Enfin, je salue la présence maintenant habituelle de Claude Guichard, co-créateur de cette émission et qui nous accompagne désormais régulièrement. Claude, bonjour.
Bonjour Stéphane, bonjour Frédéric et bonjour à tous les témoins.
Frédéric Lenoir, avant de laisser la parole à Georges et à Claude qui meurent d'envie de vous interroger, j'aimerais vous demander si ce livre consacré à cet immense pionnier de la psychanalyse qu'est Carl Gustav Jung est à la fois un ouvrage le rendant accessible à un large public, autant que la reconnaissance d'un auteur que vous qualifiez d'un des plus grands penseurs du XXe siècle, pourtant encore assez méconnu en France.
Tout à fait, et moi j'ai découvert Jung quand j'avais 16 ans, j'ai lu son récit autobiographique, hein, qui est le livre le plus accessible de Jung, et ça m'a mais vraiment percuté, passionné, j'ai trouvé sa pensée au carrefour à la fois de la psychanalyse, donc de la psychologie des profondeurs, de la spiritualité, de l'histoire des religions, des mythes, etc., d'une telle richesse que ça m'a inspiré tout au long de ma vie. Et donc j'ai lu évidemment après son œuvre, mais malheureusement c'est une œuvre difficile à lire, c'est une œuvre complexe, c'est une œuvre. Vous savez, il n'a pas une pensée du tout logique, il a une pensée circulaire, donc il commence à parler de quelque chose, puis il fait une digression de 200 pages, et puis il revient sur autre chose, et puis à la fin on comprend pourquoi il a fait tout ça. Donc c'est pas du tout aussi accessible que Freud par exemple, qui a vraiment une pensée, il est facile à lire, il est très rationnel dans son le déploiement de son argumentation, et donc je pense que c'est une des raisons qui fait que Jung est assez peu lu, alors que je suis convaincu, et on en reparlera, que c'est un des penseurs les plus importants, non seulement du XXe siècle, mais je pense que son œuvre est encore loin d'avoir été entièrement comprise, même si elle a déjà beaucoup influencé la culture, sans qu'on sache d'ailleurs souvent que c'est Jung qui est derrière les notions comme les archétypes, comme l'inconscient collectif, comme les synchronicités. Enfin, c'est incroyable le nombre de concepts qu'il a inventés qui irradient notre culture moderne et contemporaine, mais je pense qu'il y a encore évidemment des pans entiers de sa pensée qui mérite d'être connue et j'avais envie de faire partager à un large public, comme je l'avais fait d'ailleurs quelques années auparavant pour Spinoza, qui est un autre penseur majeur très difficile à lire pour d'autres raisons. Spinoza, c'est crypté, quoi. Il a un langage volontairement mathématique, donc très difficile avec des axiomes, des définitions, etc., mais qui est tout aussi génial. Donc voilà, j'aime bien m'attaquer à des auteurs que je considère comme essentiels, connus par le nom, mais méconnus parce que peu de gens les ont lus et qui sont assez difficilement accessibles. Donc c'est un plaisir de transmettre ces pensées-là.
Comment est-ce qu'on découvre un auteur comme Jung à 16 ans? Qu'est-ce qui fait un contexte familial?
Alors certainement un contexte familial, même si mes parents n'avaient jamais lu Jung, mais un contexte familial culturel favorisé, c'est-à-dire que j'ai un père qui est énarque, qui est passionné de philosophie, qui m'a mis le banquet de Platon entre les mains quand j'avais 13 ans, donc déjà un intérêt pour la philosophie grecque, une mère historienne, codicologue, c'est-à-dire spécialiste des codex médiévaux, donc j'étais dans un milieu culturel très favorisé, où on s'intéressait beaucoup à la culture dans tous les sens du terme, on lisait beaucoup. Après, ma spécificité, je dirais, plutôt par rapport à mes parents, qui c'est que j'avais une, je pense, une quête spirituelle depuis l'enfance. C'est-à-dire, je me posais la question, qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Quel est le sens de la vie humaine? D'ailleurs, la vie a-t-elle un sens? C'est quoi réussir sa vie? Donc, je me posais des questions essentielles. Y a-t-il une vie après la mort? Enfin, moi, je me dis, mais comment peut-on ne pas se poser tous ces questions? Que d'ailleurs, les enfants posent tous à 4 ans. Et ce sont des questions métaphysiques fondamentales. Ce qui fait dire à Jung, avec un peu d'ironie, que la métaphysique, ce sont des questions d'enfants auxquelles les adultes tentent d'apporter des réponses. On y reviendra. Mais c'est vrai que moi, ces questions-là n'ont cessé de m'interroger et je continue. Donc, je continue de me les poser. Ça me passionne. Je trouve que c'est l'essentiel. Ce qui m'empêche pas de bien manger, d'apprécier la matière aussi, mais ces questions de l'esprit me hantent depuis toujours. Et donc, je crois que Jung a été mis sur mon chemin, je ne sais pas comment, je n'ai aucun souvenir de ça, et que ça a été effectivement une des portes d'entrée vers ce grand questionnement.
Très bien, alors Georges, avant de te laisser la parole pour interroger notre invité, peux-tu en quelques mots rappeler à nos éditeurs les éléments majeurs retenus par notre jury pour récompenser l'ouvrage de Frédéric?
Eh bien, je crois que ce que vient de nous dire Frédéric correspond exactement au ressenti qu'a eu le jury. C'est-à-dire que cette admiration, ces connaissances que vous avez de Jung, eh bien, c'est passé dans votre livre. C'est tellement passé dans votre livre que le jury a été, je dois dire, très conquis par l'ampleur des connaissances que vous aviez. Et puis, ce deuxième aspect qui a énormément plu au jury, c'est la clarté de votre présentation. Parce que, comme vous l'avez dit, on a tous un jour ou l'autre feuilleté Jung. Je dis bien feuilleté parce que, comme vous l'avez dit, la pensée est foisonnante. Ça va un peu dans tous les sens. Pour faire un jeu de mots, c'est un peu complexe. Et ça, on l'a découvert dans votre livre. On a découvert aussi que vous avez cherché à bien l'expliquer. C'est-à-dire qu'il y a un aspect pédagogique dans votre ouvrage et cet aspect pédagogique porte à la fois sur la biographie, qui non plus n'est pas simple, vous n'avez d'ailleurs rien caché de sa biographie, et sur son œuvre. Et ce sont tous ces éléments qui font que le jury, on peut dire le mot, a été emballé par votre ouvrage.
Bien, Major, je vais te laisser continuer et poser les premières questions à Frédéric.
Alors, on vient de le dire, Jung est un auteur difficile. Et les Français sont assez cartésiens. Autrement dit, quand je suis devant un problème, je le découpe en parcelles, comme dit Descartes. Et vous n'avez pas choisi ce système. Vous avez créé un mandala. Parce que, si j'ai bien compris, vous avez estimé que cette pensée était trop en arborescence pour pouvoir se glisser littéralement dans notre pensée un peu cartésienne. Pouvez-vous développer un peu cette notion et ce qui vous a amené à penser à un mandala ?
En fait, oui, c'est tout à fait ça. C'est que Jung, lorsqu'il aborde, je le disais déjà tout à l'heure, lorsqu'il aborde un sujet dans un livre, il va faire plein de digressions parce qu'il estime qu'il faut aller chercher ailleurs pour mieux comprendre, pour mieux éclairer ce qu'il est en train de traiter. Par exemple, dans son livre Psychologie et Alchimie, on s'attend à un traité sur l'alchimie, mais il commence par des rêves d'un de ses patients. D'ailleurs, on apprendra bien plus tard que ce patient, c'est Wolfgang Pauli, qui est prix Nobel de physique et un des fondateurs de la physique quantique, qui a fait des rêves absolument extraordinaire. Donc il analyse tous ses rêves et puis après il va s'intéresser aux symboles de ses rêves et c'est comme ça qu'on va en venir à parler de la chimie, mais il fait des détours par la mythologie, enfin bon. Donc c'est une pensée en arborescence où pour lui tout ce lien, il a une vision holistique des choses, et ce qui fait qu'effectivement lorsque j'ai voulu comprendre le processus d'individuation qui est au cœur de la pensée jungienne, c'est-à-dire pour lui c'est une forme de spiritualité laïque qu'il a voulu introduire, puisqu'il dit que l'être humain a besoin de sacré, a besoin, qu'il est naturellement religieux, qu'il fait une expérience à l'intérieur de lui-même d'une lumineux, c'est-à-dire de quelque chose qui le dépasse, qui l'amène à aller vers une forme de sacralité. Et il nous dit, pour ceux qui ne sont pas intégrés dans une religion, il propose une expérience psychologique, c'est-à-dire qu'on peut faire à l'intérieur de sa psyché, dont on connaît certains éléments, par exemple la persona, se démasquer les faux soi que nous avons, c'est-à-dire au fond, toutes les images que nous donnons de nous-mêmes, la traversée de l'ombre, aller rencontrer à l'intérieur de soi les diverses parts obscures que nous ne voulons pas voir, intégrer son animus et son anima, donc l'animus pour la femme c'est sa dimension masculine, l'anima pour l'homme c'est sa dimension féminine, etc. Réconcilier les polarités, donc le processus d'individuation c'est un travail intérieur, très spirituel, on va dire psycho-spirituel, mais qui n'est explicité nulle part. Il en parle partout, sans jamais faire une synthèse, il n'y a aucun livre qui s'appelle le processus d'individuation. Et donc il faut aller chercher chercher à droite à gauche dans toute son œuvre. Et pour essayer de mettre de la clarté, j'ai essayé de faire un dessin, puisque lui-même faisait des dessins. Il comprenait souvent qu'avec l'image, on saisit mieux. On a une vision globale avec une image, que simplement une explication linéaire où on met les choses les unes après les autres. Et donc, dans la vision holistique du processus d'individuation, j'ai créé un dessin qui ressemble à un mandala avec un centre. Au centre, il y a le soi, puisque le but du processus d'individuation, c'est de réaliser le soi, c'est-à-dire la part la plus profonde de l'être humain, entre guillemets divine. Et puis, autour, comment on y arrive avec tous ces moyens, ces voies, ces chemins. Et puis, toutes les dimensions qui sont, mobilisées dans le cadre du processus d'individuation, à savoir les archétypes, les symboles, etc.
Merci. Alors là, vous venez d'évoquer le sacré, et bien sûr, l'un des éléments fondamentaux de la pensée jungienne. Et vous avez écrit, en le citant, « Nos aspirations vers le sacré résultent de notre inconscient qui est comme un grenier où filtre une douce lumière ». Pouvez-vous expliquer un peu cette douce lumière et comment, selon vous, Jung, en fait, il l'a perçue plus ou moins?
Alors là, ça nous amène à parler de quelque chose de, je pense, est très très éclairant, c'est la différence entre Jung et Freud. Au fond, ils ont été très très proches. Il faut savoir que lorsqu'ils se sont rencontrés, Jung était jeune, il avait je crois 38 ans, Freud avait 19 ans de plus, était beaucoup plus connu. Mais Jung apparaissait comme un peu le dauphin, celui qui était le génie qui allait prendre la succession de Freud. D'ailleurs, Freud l'a reconnu en tant que tel. Il l'a nommé rédacteur en chef de la revue de psychanalyse, président du Collège international de psychanalyse. Et puis, il a dit, vous êtes mon prince héritier, mon successeur. Donc, et pendant quelques années, ça a été une lune de miel, et puis progressivement sont apparues des différences de plus en plus fortes. Une des principales différences, c'est sur l'inconscient. C'est quand même pas rien, puisque c'est l'invention même de la psychanalyse. Et donc, c'est que pour Freud, l'inconscient, c'est le lieu du refoulement. Et donc, notamment tous vos désirs sexuels, parce que pour Freud, on sait que la sexualité tient une place absolument majeure, tout ce qui est refoulé vient dans l'inconscient, donc c'est une sorte de cave, l'inconscient, pour Freud. Et Jung, son expérience, à la fois personnel et puis médical, puisqu'il était médecin à la fois pendant des années dans une clinique très connue dans laquelle il a vraiment eu une activité très intense, mais il avait eu une clientèle privée qu'il a développée de plus en plus. C'est quelqu'un il a dit à la fin de sa vie qu'il avait interprété plus de 80 000 rêves de patients, donc sacrée expérience. Donc à partir de son expérience personnelle et de cette expérience qu'il avait en tant que médecin, il a découvert que l'inconscient, c'était pas qu'un lieu de refoulement, qu'il y avait des symboles, ce qu'il a appelé ensuite des archétypes, des choses très lumineuses, qu'on faisait des fois des rêves mythologiques qui n'avaient rien à voir avec une sexualité refoulée ou une frustration. C'était des rêves très puissants, très forts, dans lesquels apparaissaient dans les rêves des symboles que des fois même les gens ne connaissaient pas. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas lu quelque chose là-dessus. Et puis il s'aperçoit qu'il a un de ses patients qui a rêvé d'un symbole égyptien très méconnu, etc. Alors lui avait une passion pour la mythologie, donc il connaissait bien les symboles anciens. Et du coup, il s'est dit, mais l'inconscient, il y a toute une part lumineuse. Il y a quelque chose aussi qui nous amène des symboles hérités du passé, des archétypes qui sont des symboles universels. Et donc, on ne peut pas dire simplement que c'est une cave. C'est aussi, voilà, ce grenier qui nous élève, parce qu'il dit certains rêves nous donnent une énergie extraordinaire, nous font grandir, nous permettent de résoudre des problématiques, des névroses même parfois. Et donc, le dialogue entre le conscient et l'inconscient est essentiel pour parvenir à cet accomplissement, devenir un individu singulier, l'individu unique que nous sommes, qu'il appelle le processus d'individuation. Et pour ça, il faut dialoguer avec cet inconscient qui n'est pas, encore une fois, il reconnaît tout à fait qu'il y a un lieu de refoulement, mais pas que. Et il nous dit, l'inconscient nous parle, l'inconscient nous envoie des messages, et des messages des fois très positifs, ce qu'on va appeler aussi des synchronicités. Donc au fond, c'est cette grande différence entre Freud et Jung, et on pourrait dire que la grande différence, elle porte aussi sur la notion de spiritualité. C'est-à-dire que ce qui est derrière tout ça, c'est qu'il y a quelque chose dans notre inconscient qui nous dépasse largement et qui nous relie à quelque chose de plus grand que nous. Soit à travers un lointain passé, soit à travers l'humanité entière, il dit il y a des convergences, des symboles universels, etc., soit qui nous éclaire sur le chemin que nous avons à parcourir. Par exemple, les rêves prémonitoires. Pourquoi est-ce que nous allons faire des rêves qui nous avertissent de quelque chose qui va avoir lieu? Eh bien, pour nous aider à nous y préparer ou à comprendre le sens de notre existence. Donc là, on voit qu'il y a cette dimension-là qui, évidemment, était totalement niée par Freud.
Ce qui explique sans doute tout ce que vous venez d'évoquer, l'immense intérêt que la franc-maçonnerie porte sur Jung. Je vous l'ai dit, votre livre a été vraiment apprécié non seulement par notre jury, mais également par tous les frères présents. Et je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la maçonnerie. Vous avez écrit quelques ouvrages.
Alors, je connais sur la maçonnerie. D'un point de vue historique, je ne suis pas franc-maçon. Je n'ai pas expérimenté l'expérience que vous faites en loge, même si j'ai déjà fait quelques conférences dans des loges. Mais je dis tout de suite, je n'en fais plus parce que je ne veux pas que tout le monde m'écrive pour me demander de venir parce que j'ai plus le temps. Donc je connais un tout petit peu. Après, je me suis intéressé plutôt à l'histoire de la franc-maçonnerie, c'est-à-dire la naissance de la franc-maçonnerie. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est dans quel contexte historique, au XVIIIe siècle, les liens avec les autres sociétés secrètes, etc. Le contexte des philosophes des Lumières, ça qui m'a intéressé, mais bon, j'avoue, je ne suis pas un spécialiste de la franc-maçonnerie.
Mais j'allais dire que sur la partie symbolique dont vous avez parlé, ou même spirituelle, voilà. Sachez que
je connais cette dimension.
Voilà, et là, effectivement, le lien avec le fonctionnement interne de la maçonnerie de nos pratiques, notamment le symbolisme, explique sans doute cet immense intérêt sur cet auteur chez nous.
Mais ça ne m'étonne pas du tout. Et d'ailleurs, de manière générale, je suis frappé de voir du nombre de francs-maçons qui lisent mes livres. C'est-à-dire, je reçois énormément de courriers. Très souvent, je rencontre des gens qui me disent « Voilà, je vous ai lu en loge, j'ai fait un travail, etc. » Donc, je vois qu'il y a une parenté entre mon propre questionnement métaphysique, spirituel, et puis... le vôtre. Donc c'est évident qu'il y a des fortes parentés. Et Jung, évidemment, puisqu'il s'est intéressé et passionné par la dimension symbolique qui est au cœur de votre propre cheminement et de vos pratiques.
Oui, juste, c'est vrai que les frères, comme les sœurs d'ailleurs, vous lisent beaucoup. C'est peut-être aussi parce que, en fait, ce que vous exprimez est très actuel. Enfin, je dirais la façon dont vous l'exprimez. Et c'est vrai que si je prends un exemple, Jung et l'actualité, on pourrait dire que Jung, quand même, s'il y a quelques mots qui nous viennent à l'esprit, c'est l'expérience, l'émerveillement, la curiosité et le questionnement. Et aujourd'hui, on se rend compte quand même qu'il y a une tendance, à la fois individuelle et collective, au repli sur soi, ce que certains appellent l'enfermement. Et visiblement, Jung n'est pas dans cet esprit-là. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que Jung est un optimiste ?
Ah, certainement. Je pense que le tempérament des penseurs influe sur leur pensée. Montaigne était un bon vivant optimiste et sa philosophie réjouissante. Schopenhauer avait plein de problèmes de santé, en amour. Il avait aucun étudiant à ses cours. Il était terriblement pessimiste. On comprend pourquoi. Et donc, évidemment que la sensibilité, le tempérament, le caractère influent sur une pensée. Et Jung était un grand vivant. Jung, c'était une force de la nature. C'est un homme qui croquait la vie à pleines dents et qui avait une vision. Alors, optimiste, dans quel sens ? Dans le sens où il pense que la vie a un sens. C'est un sacré optimisme parce que on peut dire si tout est absurde, bon bah c'est difficile de se réjouir de la vie, alors que lui disait non, la vie a un sens, il faut le trouver, il faut le comprendre. Et dans ce sens-là, il pensait que l'aventure humaine était un progrès vers de plus en plus de conscience. Donc il dit finalement, l'aventure humaine converge vers la création de conscience. Et plus nous sommes conscients, et la conscience c'est à la fois la connaissance, mais c'est également la morale. C'est-à-dire la conscience nous oblige, nous rend responsables. Plus on est conscient, plus on est lucide, plus on doit s'engager, être responsable et donc protéger aussi le vivant, pratiquer la justice, rechercher la vérité. Donc il a cette espèce d'optimisme que j'ai tout à fait aussi dans l'amélioration possible de l'homme, de l'être humain. Malgré tout, j'ai envie de dire, parce que quand on voit aussi tous les désastres qu'on peut faire, on pourrait faire un sacré procès à l'humanité. Hein. Imaginons des extraterrestres qui viennent voir ce qui se passe, qui disent « Ouh là là, mais il y a une espèce qui est en train de foutre le bordel, là c'est pas les insectes, hein, c'est vraiment l'être humain. » Et donc du coup, l'optimiste, il est lucide. L'optimiste, c'est pas quelqu'un qui est dans une vision bisounours, sirénique, tout va bien, pas du tout. Un vrai optimiste, c'est quelqu'un qui est lucide, qui voit les choses et qui en même temps, à la fois cherche les solutions, c'est-à-dire se dit comment on peut en sortir. Et Jung, toute sa vie, il a cherché à apporter des compréhensions de l'être humain qui lui permettent de s'améliorer, de grandir, d'être plus lucide, d'être plus conscient, et puis qui trouve que les choses ont plutôt un sens plutôt qu'une absurdité ou un non-sens.
Alors vous avez parlé de Schopenhauer, et d'ailleurs Schopenhauer il fait partie d'un courant, si on remonte très loin, on a l'Ecclésiaste particulièrement pessimiste, on a Cioran pour proche de nous, et alors eux c'est l'inverse de Jung qui a une joie de vivre, comme vous venez de le dire, eux ils disent c'est un malheur d'être né, et pourrait-on penser, imaginer qu'ils auraient eu besoin d'une psychanalyse ?
Je crois qu'on a tous besoin d'une introspection et d'un travail analytique, c'est-à-dire d'une compréhension de soi, parce qu'on est prisonnier de notre inconscient. Moi, j'ai fait 10 ans de psychothérapie freudienne et puis après par d'autres méthodes, d'autres voies qui n'étaient pas jungiennes, mais j'aurais pu. Hein. Mais disons que j'ai eu besoin d'être accompagné pour être encore plus lucide sur moi et de comprendre pourquoi j'avais tel mécanisme de répétition, telle aversion pour certaines personnes qui, comme par hasard, me ressemblaient étrangement. Donc, on s'aperçoit que on est, comme le dit très bien Spinoza, avant Jung et avant Freud, on commence par être mu par notre inconscient. Nous n'avons aucune liberté au départ, aucune. J'en suis convaincu. Et nous sommes entièrement mus par les mécanismes inconscients qui sont liés à la fois à notre personnalité, à notre enfance, à tous les schémas qui se sont passés, qui nous ont influencés dans le conditionnement affectif et culturel dans lequel on est né. Et puis progressivement, à l'intérieur de ça, je pense qu'une liberté intérieure peut émerger. Et que là, on va faire des choix qui vont être de plus en plus personnels au fur et à mesure que nous connaissons et que nous sommes capables de déjouer, je dirais, tous les déterminismes qui sont venus de la petite enfance. Et à partir de ce moment-là, oui, émerge une liberté qui nous permet de nous accomplir, de grandir, de devenir cette personne singulière que nous sommes, d'avoir des désirs personnels. Je suis en train d'écrire un livre sur le désir qui va sortir le 9 novembre, donc on est vraiment dans l'actualité. Mais je suis frappé de voir à quel point la plupart de nos désirs sont mimétiques. C'est-à-dire que nous imitons les désirs des autres. Et quelqu'un qui l'a remarquablement montré, c'est René Girard. Dans son livre « Mensonges romantiques et vérité littéraire », bien, il montre qu'à l'inverse de ce que pensaient les romantiques, à savoir que tous nos désirs étaient authentiques, venaient du fond de notre âme, etc., que si on lit attentivement les grands romanciers du 19e, du 20e siècle, notamment Stendhal, Cervantes, bon, qui est antérieur lui, Dostoïevski, Proust, etc., il prend leurs personnages, il montre qu'ils ne cessent de désirer ce que les autres désirent. On désire d'abord ce que des modèles autour de nous, nos parents, et puis après les copains, puis après les stars, etc., désirent. Et aujourd'hui, on voit dans la société de consommation, on est à fond là-dedans. Et donc finalement, je crois qu'il faut accéder à une liberté, et une de ces libertés intérieures, c'est d'aller vers nos désirs personnels, nos désirs profonds, nos désirs singuliers, et c'est ça qui nous met le plus dans la joie. Alors que si on se contente d'imiter les désirs des autres, ben, ça ne nous convient pas forcément. Et donc, on est reconnu socialement, mais on n'est pas satisfait intérieurement. Et là, je pense que c'est vraiment une des choses les plus importantes, c'est d'arriver à discerner nos désirs personnels. Alors, pour répondre à votre question, oui, je pense qu'on a tous besoin de faire ce travail de connaissance de soi, hein, le connais-toi toi-même, hein, des Grecs et de Socrate, repris par Socrate, qui est essentiel. Et l'introspection, c'est la base de la liberté, c'est le fondement de ce qui va nous rendre libres et nous mettre le plus possible dans la joie.
Je disais, vous évoquez la joie, on pourrait évoquer Spinoza sur le concept de joie, qui effectivement ne mettait pas ça dans la possession d'un bien terrestre ou la possession sexuelle d'une femme, ou on est bien dans une autre dimension de la joie.
Tout à fait, pour lui c'est le plaisir. La joie c'est vraiment le lien entre un affect, qu'on appelle la joie, et une idée adéquate, c'est-à-dire quelque chose de juste, c'est-à-dire aller vers... tourner son désir vers des personnes, des choses ou des objets qui nous correspondent parfaitement bien. Et donc, nous avons une juste orientation de notre désir. Et du coup, cette rencontre avec cet objet ou cette chose ou cette idée, parce qu'elle s'harmonise bien avec qui nous sommes en profondeur, eh ben, nous met dans la joie. Et c'est pour ça que toute la pensée de Spinoza est fondée sur le conatus, cet effort que nous faisons tous pour persévérer et grandir dans notre être. Et Spinoza nous dit, chaque fois que nous grandissons, et de manière juste, conforme à notre nature singulière, eh bien, nous sommes dans la joie. Et chaque fois que nous diminuons ou que nous rencontrons des obstacles qui nous empêchent de nous accomplir et de grandir, nous sommes dans la tristesse. Il dit la joie et la tristesse sont deux sentiments, au-delà des émotions. Hein. Une émotion, c'est passager. Des sentiments, ça s'inscrit. Ce sont des sentiments qui durent, qui sont liés au fait, au type d'objet qu'on rencontre et donc que nous désirons. C'est pour ça que la clé de Spinoza, c'est la juste orientation du désir vers des objets, des idées, des personnes qui nous correspondent profondément, qui s'harmonisent bien avec vous. L'exemple le plus simple, c'est l'alimentation. Si vous mangez des aliments qui sont bons pour votre nature singulière, on n'a pas tous du tout le même corps, ça vous met dans la joie. Moi, je sais que de boire un verre d'alcool, je tombe par terre, je m'endors tout de suite et j'ai mal à l'estomac et je ne digère pas de la nuit. Alors que j'ai des amis, ça les réjouit, parce que leur tempérament, leur nature s'accorde bien avec l'alcool. Donc on a tous des tempéraments différents. Et ben, appliquons ça à tous les domaines. Il y a des rencontres humaines qui nous font grandir, il y a des rencontres humaines qui nous stérilisent, qui nous plombent, et donc il faut les discerner.
Ça, c'est une vraie question, la question du désir. Parce que comment faire pour ne pas aller vers des désirs qui ne sont pas dans notre nature ?
Eh bien, tout à fait. C'est pour ça que j'ai fait un livre là-dessus. Parce que je trouve que le désir, c'est le cœur de tout. C'est l'essence de l'homme, c'est le moteur de nos existences. Et c'est capital. C'est-à-dire, sans désir, ben, on vit plus. On survit. Et donc, le désir est capital. Mais comment discerner des désirs, encore une fois, qui sont les nôtres, des désirs qui nous font grandir, des désirs qui sont pas uniquement dans l'ordre de l'avoir, c'est bien d'avoir des désirs dans l'ordre de l'avoir, mais les plus profonds sont dans l'ordre de l'être. Le désir de connaissance, le désir d'amour, le désir de s'accomplir, de se réaliser pleinement. Et donc, au fond, je crois qu'il y a tout un travail aussi de lucidité à faire sur nos désirs, et c'est ce qui fera qu'on aura une vie réussie ou moins réussie.
Alors sur le désir, je vais encore y revenir une nouvelle fois. Est-ce que nous n'avons pas un désir d'immortalité ? Et n'est-ce pas la raison pour laquelle, notamment, Jung parle de l'âme qui serait susceptible d'avoir une survie au-delà de la mort ?
Alors, pas à cause du désir d'immortalité, parce que là, si vous dites, comme vous l'avez formulé, nous avons un désir d'immortalité, et c'est pour ça que nous souhaitons, bah, c'est l'objection de Freud. C'est-à-dire que Freud, qui ne croit pas du tout, en fait, à la survie de l'âme après la mort, puisqu'il a une philosophie totalement matérialiste, nous dit, nous pensons que nous allons survivre parce que nous désirons survivre. Et donc, c'est le désir de survie qui crée cette croyance. Et donc, cette croyance, pour lui, est illusoire. Et donc, Jung, c'est pas du tout à cause de ça qu'il est, non pas qu'il croit, mais qu'il a l'intime conviction que l'âme survit à la mort. C'est parce qu'il a fait des expériences qui vont dans ce sens. De deux types, il a fait ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. Donc, il a eu un arrêt cardiaque, il est sorti de son corps, il a vu son corps, il a vu son médecin. Il s'est dit, mais l'esprit est détaché du corps, la conscience se détache du corps. Ça veut dire que la conscience est immortelle. Et donc, il raconte cette expérience très longuement dans le livre Ma vie. Puis après, il a fait un voyage incroyable, hein, je passe les détails. Et puis, il est revenu dans son corps, et il était en colère. Il en a voulu à son médecin. En disant, mais pourquoi m'avoir réanimé ? J'étais tellement bien dans cet au-delà dans lequel il n'y avait plus du tout de souffrance. J'étais dans une lumière, une joie. Alors, c'est un des premiers à avoir fait cette expérience-là, en tout cas à l'avoir raconté. Puisque vous savez que à partir des années 70, avec le livre de Raymond Moody, La vie après la vie, et ça a libéré la parole et des millions de témoignages de gens ont dit, mais moi aussi j'ai fait cette expérience de décorporation. Donc lui ayant fait cette expérience, bah, il a dit, bah, je sais que nous sommes immortels. Voilà. C'est-à-dire que notre conscience, notre esprit survit à la mort du corps. Et puis il a fait d'autres expériences beaucoup plus jeunes, puisqu'il est né dans une famille avec des ascendances où le spiritisme était pratiqué. Bon, ça, c'était très à la mode au 19e siècle. Victor Hugo a pratiqué le spiritisme comme plein d'intellectuels de son temps. Et Jung avait des grands-parents spirites. Sa mère avait des dons, sa sœur avait des dons. Et donc, il a assisté depuis l'enfance à des séances du spiritisme. Et il voyait des défunts qui venaient raconter un tas de choses. Donc, pour lui, c'était presque une évidence que, bah, après la mort, l'esprit continuait d'exister. Même si, sur les séances spirites, il a quand même... Après, il était médecin, il était psychiatre, il a dit, bon, les médiums sont souvent une personnalité hystérique, etc. Donc, il a cherché à rationaliser un peu tout ça. Mais au fond de lui-même, il a toujours été intimement convaincu que l'esprit survivait au corps.
Alors, on commence à évoquer le concept de spiritualité. Vous-même, vous êtes un spécialiste des spiritualités à travers de nombreux de vos ouvrages. Et je voulais savoir, cette conception qu'on a aujourd'hui de vivre une spiritualité sans Dieu. La religion disparaît petit à petit. Bertrand Vergely, qu'on a eu ici dans notre studio, dit qu'il y a eu le polythéisme, il y a eu le monothéisme, et maintenant il y a l'homme-dieu. Quel est votre avis sur cette évolution, cette notion de spiritualité aujourd'hui, telle qu'elle est vécue ?
Je crois qu'on mélange un peu tout. C'est-à-dire qu'on confond Dieu, la religion, la spiritualité, on ne sait plus très bien tout ça. Bon. Donc je voudrais juste apporter quelques petits éléments de distinction. Moi, ce que j'entends par religion, dans la tradition sociologique, hein, c'est un ensemble de pratiques, de croyances, de rituels collectifs. Donc la religion, elle a une dimension essentiellement culturelle, avec cette double dimension, cette dimension horizontale politique, c'est-à-dire ça crée du lien social, la religion. Il n'y a pas une civilisation humaine qui s'est développée sans religion, parce que croire en un invisible qui nous dépasse, eh bien quelque part, ça crée du lien entre les humains. Et puis, la dimension verticale, c'est qu'on se relie à une transcendance, quelque chose qui nous dépasse. Donc la religion, elle a cette double dimension, se relier à quelque chose qui nous dépasse et... faire une communauté, un groupe d'humains qui partagent des croyances et des pratiques. La spiritualité, elle peut exister dans la religion ou en dehors de la religion, c'est la dimension personnelle. C'est-à-dire, c'est la quête intérieure de l'individu qui cherche à s'améliorer, qui cherche à grandir en humanité, qui cherche à comprendre le monde. Donc la spiritualité, elle est à la fois tournée vers un savoir, vers une connaissance, et elle est tournée aussi vers une expérience, et une expérience du cœur. La spiritualité est toujours reliée à l'amour. Et dans toutes les traditions des différentes cultures humaines, vous voyez des individus qui font des expériences spirituelles, des expériences mystiques, on pourra dire, qui disent avoir été bouleversés par quelque chose qui est une expérience intérieure. Et peu importe la culture dans laquelle ça a lieu, et des fois ça a lieu en dehors de toute culture religieuse. Et on voit aujourd'hui des gens qui n'ont plus du tout d'enracinement dans une culture religieuse, et Jung en a rencontré des quantités, qui font des expériences spirituelles extrêmement fortes, qui disent mais j'ai été bouleversé, j'ai pleuré, j'ai vécu une expérience d'unité dans la nature par exemple. Je vous donne un exemple très concret, André Comte-Sponville, philosophe, athée, matérialiste, mais il a vécu une expérience mystique, il le dit lui-même. J'étais dans la nature et d'un coup, je n'étais plus dans mon ego. J'ai l'impression de vivre une expérience de communion, de fusion avec le monde. J'ai ressenti une expérience d'amour, d'unité, de simplicité. Tout ce qu'il a décrit, c'est ce que les grands mystiques décrivent. Et donc finalement, on peut faire des expériences spirituelles du cœur, de l'esprit, profondément personnelles, qui ne sont pas inscrites du tout dans des religions, comme vous pouvez le faire dans les religions. Donc distinguons bien la spiritualité de la religion. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je crois que de plus en plus de gens font des expériences spirituelles ou ont un chemin spirituel qui s'inscrit en marge des religions, à l'extérieur des religions ou dans les religions. Tout existe. Alors qu'avant, les deux étaient toujours mêlés, puisqu'on ne pouvait pas quasiment... Il n'y a pas de culture non religieuse, finalement. Mais on voit au sein des grandes religions dans le passé des personnages qui ont en même temps totalement dépassé leur propre religion. Le Bouddha en est un exemple formidable. Il va critiquer profondément la religion hindoue. Mettre par-dessus bord le système des castes. Il va être en rupture avec la religiosité dominante qui dit que ce sont les brahmanes qui peuvent accéder à la libération. Il dit non, tout le monde peut accéder à la libération. Les hommes, les femmes, les hors-castes, etc. Et donc, il va mettre en place une spiritualité universelle qui va transcender complètement la religion hindoue de son temps. Jésus va faire la même chose. Jésus crée une religion, une spiritualité universelle qui peut dépasser totalement le judaïsme. C'est pour ça que le christianisme s'est rapidement détaché du judaïsme, mais pour redevenir à nouveau une religion avec évidemment des dogmes, des rites, des appartenances, etc. Bon, donc je dirais qu'il faut vraiment distinguer les deux, mais ne pas les opposer. Elles peuvent cohabiter. Il y a des gens religieux et spirituels, il y a des gens religieux et pas spirituels, il y a des gens spirituels et pas religieux.
Oui, tout à fait. C'est parce que ça repose en même temps la question de la morale. Est-ce qu'il peut y avoir une morale sans Dieu, une morale sans transcendance, une morale immédiate ?
Mais c'est pas la même chose. Ouais, parce que voilà. Prenons la morale bouddhiste. C'est une morale extrêmement forte. C'est une discipline, une exigence incroyable. Sans Dieu. Est-ce que pour autant elle est immorale ? Mais pas du tout. On peut très bien vivre une morale, c'est-à-dire une dimension spirituelle sans Dieu. Le bouddhisme en est un des meilleurs exemples historiques. Spinoza, il ne croit pas du tout à un Dieu personnel. Mais quelle morale, quelle éthique, quelle valeur, quelle puissance qui responsabilise l'être humain, et peut-être plus encore que les religions. Pourquoi ? Parce qu'il fait appel à leur raison. Et il nous dit par la raison et la compréhension que nous allons être morales, que nous allons avoir une éthique forte, et pas par la croyance. La croyance, ça tient un jour, et puis ça lâche le lendemain. Et donc finalement, je suis convaincu que derrière le mot Dieu, on peut dire tout et n'importe quoi. Et donc vous avez le Dieu des monothéismes, qui est un Dieu personnel, qui intervient dans l'histoire, qui fait des miracles, avec lequel on peut dialoguer, etc. Vous avez le Dieu des philosophes, auquel vous êtes, les francs-maçons, beaucoup plus proches, qui est plutôt un dieu conceptuel qui va ordonner l'univers, poser des lois, c'est le grand architecte de l'univers, qui est le dieu des philosophes des Lumières, mais avec lequel on voit qu'il ne va pas faire de miracle, qu'il ne va pas intervenir dans la vie des humains tous les jours. Donc vous avez le dieu des stoïciens, qui est le logos universel, qui est d'ailleurs assez proche de cette vision d'un dieu architecte de l'univers, qui pose des lois fondamentales, qui est bon. Voilà. Et puis vous avez le dieu de Spinoza, qui confond avec la nature, qui est plutôt à la fois la matière et l'esprit, c'est-à-dire la totalité du réel. Donc finalement, chaque philosophe, chaque penseur, chaque tradition a une image d'un dieu différent. Et je dirais, peu importe. Ce qui compte, et pour moi ce qui est essentiel, c'est quelle que soit la représentation qu'on peut avoir de l'absolu et le nom qu'on peut donner à cet absolu, que ce soit Dieu ou pas Dieu, et quelles que soient les formes de Dieu, parce qu'il y en a des tonnes, ce qui compte, c'est le chemin intérieur que fait chaque être humain. Et je connais des gens qui n'ont aucune croyance en Dieu, qui sont des êtres humains exemplaires, profondément spirituel et éthique, et puis des gens qui parlent de Dieu toute la journée, et franchement, on n'a pas envie de leur ressembler.
Claude Guichard.
Oui, en fait, c'est vrai qu'au départ, la religion, c'est aussi un petit peu l'expérience avec ce qui est au-delà de soi. Et après, ça a été un peu récupéré, on va dire ça comme ça. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ce qui est peut-être une ligne de démarcation importante, c'est cette notion de salut ?
Alors la notion de salut, elle est bien entendu présente dans beaucoup de religions, mais pas toutes. Prenez les grandes religions du salut, on les connaît, hein, c'est évidemment le judaïsme, le christianisme, l'islam, les monothéismes, on va dire, le zoroastrisme, qui est une des premières d'ailleurs contemporaines du judaïsme, et puis l'hindouisme, le bouddhisme, les religions dites karmiques, c'est-à-dire qui proposent un salut par la libération. Alors c'est pas le même type de salut, d'un côté c'est la grâce divine, d'un autre côté c'est la libération par la connaissance de soi. Mais ça c'est les grandes religions du salut. Mais vous avez d'autres religions qui ne parlent pas de salut. Prenez le confucianisme et le taoïsme en Chine, la notion de salut n'est pas présente. Prenez le chamanisme, qui est la religion première de l'humanité, la notion de salut n'est pas présente. Il s'agit plutôt de vivre en harmonie avec la nature, en harmonie avec le monde, en harmonie avec les autres. Et donc là-dessus, il n'y a pas l'idée d'une libération ou d'une vie après la mort, ce n'est pas quelque chose qui est essentiel. Donc vous avez dans le monde des religions du salut et des religions qui ne sont pas des religions du salut. Mais ce sont des religions quand même. C'est-à-dire qu'il y a des pratiques, des croyances, des rituels. Prenons le chamanisme, il croit qu'il y a des esprits qui sont présents et avec lesquels on peut dialoguer. Ça implique certaines responsabilités, notamment de respecter le vivant, chose qu'on aurait bien besoin aujourd'hui, alors qu'on est dans des régions du salut, mais qui vont tyranniser les autres vivants. Et donc finalement, je crois qu'il ne faut pas réduire la religion au salut. Il y a des régions du salut et d'autres non.
J'aimerais revenir une seconde sur le bouddhisme. En lisant votre biographie, j'ai constaté que vous aviez fait une thèse sur la rencontre, vous m'arrêtez si j'ai une bêtise, entre le bouddhisme et l'Occident.
Tout à fait.
25 ans après cette thèse, est-ce que cette rencontre, selon vous, a eu lieu ? Et si oui, quelles en seraient les conséquences ?
Alors ça va nous ramener à Jung de parler de ça. Parce que Jung a été un des premiers à souligner l'importance de la rencontre de l'Orient et de l'Occident. Donc dès les années 1920, à un moment donné où personne ne parlait vraiment de l'Orient, il y avait quelques orientalistes, des gens, c'était très élitiste la connaissance de l'Orient, il a popularisé pour un public occidental la connaissance de l'Orient à travers notamment des préfaces qu'il a fait très connues. Il a préfacé le Yi Qing par exemple, qui est le grand livre de divination chinoise, mais qui aujourd'hui a un succès en Occident majeur. Il a préfacé le grand livre tibétain de la vie et de la mort, etc. Donc il a fait connaître en grande partie la pensée orientale en nous disant c'est l'autre poumon de l'humanité. C'est-à-dire d'un côté il y a le poumon qui est le poumon occidental, c'est ou cette part de l'esprit humain qui est tournée vers l'extraversion, vers l'extériorité, et l'occidental il cherche à conquérir le monde, il cherche à dominer la matière, d'où la science, la technique, etc., et à se projeter dans le monde. Et puis dit l'oriental, il est plutôt dans l'intériorité, il est plutôt c'est un introverti. Vous savez que c'est Jung qui a inventé la distinction extraverti introverti, et il l'applique à l'humanité en disant les civilisations introverties sont les civilisations d'Orient, les civilisations extraverties sont la civilisation occidentale, et qui donc n'ont pas du tout le même rapport au monde. Pour un oriental, l'essentiel, c'est la conquête de soi. Pour un occidental, l'essentiel, c'est la conquête du monde. Et donc, il nous dit, on a besoin des deux. C'est-à-dire que si on conquiert le monde sans vie intérieure, c'est dramatique et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Si on se conquiert soi sans changer le monde, on laisse l'injustice, on cherche pas à progresser, on n'apporte aucune évolution technique qui peut soulager la misère humaine. Et donc finalement, il a été un des tout premiers à nous dire on a besoin de ces deux dimensions, de l'introversion, de l'extraversion, de la conquête intérieure, de la conquête extérieure, et ces polarités s'harmonisent entre elles. Et donc moi j'ai fait effectivement, après un travail plus spécifique, mais qui inspiré par Jung d'une certaine manière, que j'avais lu avant, sur la rencontre du bouddhisme et l'Occident, et j'avais lu une phrase de Arnold Toynbee, qui est un des plus grands historiens anglais de l'histoire, des civilisations. Il avait eu cette phrase assez énigmatique. Il avait dit, et bien avant que ce soit, ça apparaisse, que le bouddhisme soit connu, notamment en Occident, et on lui avait posé à la fin de sa vie une question en disant, mais quel est selon vous l'événement qui restera le plus important du XXe siècle, à l'échelle de l'histoire des civilisations, en prenant beaucoup de recul? On s'attendait à ce qu'ils répondent les deux guerres mondiales, la Shoah, enfin il y a eu quand même la bombe atomique, il y a eu quand même des trucs incroyables. Il répond la rencontre du bouddhisme et de l'Occident. Allez comprendre. Et j'ai essayé de comprendre ce qu'il voulait dire. Et je crois que la réponse, c'est ce que je viens de vous dire. C'est le bouddhisme, c'est le cheval de Troie de l'Orient en Occident. C'est la manière dont l'Orient rencontre l'Occident. Parce que c'est la philosophie et la spiritualité orientale la plus proche des Occidentaux, parce qu'elle a un côté pragmatique, rationnel, elle fait pas référence à des dieux extérieurs, il n'y a pas de rituel aussi, allez en Inde, vous allez voir le culte de Ganesh, de Shiva, ça nous parle pas. Alors que le bouddhisme nous parle. Et donc, cette pureté métaphysique nous parle, ce qui fait que je crois qu'effectivement, le bouddhisme peut nous aider aller vers plus d'intériorité, et l'exemple majeur, c'est la méditation. Regardez aujourd'hui comme la méditation se répand comme une traînée de poudre. Vous avez des centaines de millions d'occidentaux qui méditent, c'est devenu à la mode, mais c'est pas qu'une mode, je pense que ça va durer, et c'est un exercice spirituel qui existe dans d'autres lieux, initiatiques notamment, mais qui aujourd'hui est en train de se populariser grâce au bouddhisme. Donc je crois que derrière la rencontre du bouddhisme et de l'Occident, il y a cette unité de l'esprit humain, introverti et extraverti, qui est en train de se rencontrer, et je crois que c'est un fait majeur.
Quand vous parlez de l'exercice de la méditation qui commence à être vraiment pratiqué en Occident, est-ce qu'on n'est pas quand même, je dirais, sur la surface des choses, sur un côté peut-être un peu, entre guillemets, à la mode, zen, etc., sans forcément rentrer dans la philosophie bouddhiste, je dirais à fond. On oui. En voit peut-être qu'un élément.
Bien sûr que la méditation bouddhiste a une profondeur spirituelle qui conduit aussi à une forme de métaphysique, etc. Mais c'est déjà ça. C'est-à-dire que déjà, que des gens prennent le temps de s'arrêter dans leur vie superactive pour essayer d'être totalement présents à ce qui se passe en eux, être à l'écoute de leurs sens, de leurs ressentis, de leurs émotions, mais c'est un formidable point de départ pour faire un travail introspectif. Et donc, même s'ils ne connaissent pas la philosophie bouddhiste qu'il y a derrière, les notions d'impermanence, d'interdépendance, il y a toute une philosophie bouddhiste derrière la pratique de la méditation, mais peu importe, c'est le premier pas. Et le seul fait d'avoir des temps de silence dans sa vie permet de se reconnecter à soi, donc à son esprit, et là, vous pouvez commencer tout un chemin qui vous conduira beaucoup plus loin que la méditation. Donc, peu importe si au départ, on n'est pas dans un chemin spirituel explicite, le seul fait de méditer, c'est un temps d'introspection, de silence intérieur, qui est le point de départ à beaucoup de choses.
Est-ce que c'est pas aussi la démonstration que l'homme quitte un monde, je dirais, ou un système collectif pour aller vers un individualisme spirituel où on se détache, je dirais, des grandes religions par exemple, ou d'autres formes collectives, les mystères, les initiations, enfin.
Non, mais le drame du collectif occidental, c'est qu'il s'est détaché de l'intériorité. Et donc, il n'y a pas d'opposition entre les deux. Et je crois qu'au contraire, si on nourrit le collectif de l'intériorité des individus, c'est-à-dire d'individus qui sont connectés à eux-mêmes, à leur intériorité, ils vont redécouvrir des choses tout à fait universelles. Et vous savez, je crois que c'est dans le singulier qu'on découvre l'universel. Il n'est pas comme ça une idée abstraite. Mais c'est à travers le Bouddha, il a mené une vie, une existence solitaire pendant 10 ans, et au terme de ces 10 ans, il a eu cet éveil qui lui a permis de transmettre un enseignement universel, mais parce qu'il a expérimenté à l'intérieur de lui. Donc, faut pas opposer le travail intérieur spirituel personnel avec le collectif, parce que le collectif est nourri de gens, et les grandes idées collectives, les grandes valeurs collectives, et les grandes pratiques collectives et les grands symboles collectifs sont nourris, ont été nourris tout au long de l'histoire de l'humanité d'individus qui avaient fait un travail sur eux-mêmes extraordinaire. Jésus, Bouddha, Socrate et plein d'autres, et Spinoza et plein d'autres. Et donc finalement, n'opposons pas les deux. Moi, je crois que la révolution intérieure accompagne la révolution sociétale. Il faut les deux, et si on oppose les deux, ben finalement, on va vers soit on n'est que dans l'intériorité, on se préoccupe absolument pas des gens, ce que je critique aussi volontiers, soit on n'est que dans la transformation du monde, le politique, etc. Mais si on ne fait pas un travail sur soi, on va mettre peu de conscience sur ce qu'on fait et on peut aller vers des catastrophes. Donc je crois que les deux, en fait, sont vraiment nécessaires.
Que pensez-vous de ce qu'on appelle aujourd'hui l'homme-dieu, l'homme qui oublie qu'il fait partie de la nature, l'homme qui veut tout fait pour arriver à l'immortalité? Regardez ces recherches menées par les grandes sociétés ou leurs grands dirigeants qui aujourd'hui mettent des milliards de dollars sur la recherche de la vie éternelle. C'est une réalité aujourd'hui.
Oui, mais c'est le côté prométhéen de l'être humain qui, c'est ce que les Grecs dénonçaient en appelant ça l'hubris, c'est-à-dire ce désir de toute puissance, de maîtriser tout, de ne plus dépendre de rien d'autre. Évidemment que c'est un excès et c'est de l'orgueil qu'il y a derrière tout ça. Donc je crois que ce dont on a le plus besoin aujourd'hui, c'est d'humilité, de se rappeler qu'on n'est pas grand-chose et que on a besoin des autres, qu'on a besoin de la nature, on a besoin des autres vivants. Et aujourd'hui, quand on saccage les écosystèmes qu'on le fait aujourd'hui, on le paye très très cher. Et on sait que tous les écosystèmes sont extraordinaires. C'est un équilibre incroyable. On le voit dans la vie des océans, par exemple. Et ben, ce qu'on fait, la surpêche, etc., est un désastre. Et ça a des conséquences climatiques, etc. Et dans tous les domaines, chaque fois qu'on touche un écosystème et qu'on déséquilibre, par la surconsommation, la surpêche, la surchasse, l'exploitation intensive, la déforestation massive, quels que soient les exemples abondent, eh bien finalement, on s'aperçoit qu'on détruit un équilibre naturel qui était formidable. Et il faut qu'on revienne à cette humilité de reconnaître qu'on fait partie d'un tout et qu'il faut respecter ce tout. Il faut respecter les autres vivants, il faut respecter la nature, il faut respecter les autres êtres humains, parce que on crée des déséquilibres par l'injustice. Plus on est dans des sociétés où l'injustice domine, où on tolère qu'il y ait des gens qui s'enrichissent de plus en plus et que d'autres qui s'appauvrissent de plus en plus, c'est intenable à long terme. On va vers des problématiques sociétales très graves. Et donc je crois qu'effectivement, il faut avoir cette humilité et puis considérer qu'on fait partie d'un tout.
En clin d'œil à Claude, je dirais que les Grecs avaient déjà la réponse à ce que vous dites, c'était le fameux Medanagan, rien de trop, en réponse à l'hubris, ce qui est extraordinaire. Ils avaient ces concepts, mais ils avaient aussi la réponse à ces concepts.
Les Grecs avaient la réponse à ces concepts, et les bouddhistes nous parlent de la voie du juste milieu, c'est-à-dire de l'équilibre.
Mais là, en ce moment, on parle avec Anjonas du principe responsabilité. Oui. Là, on est au cœur du problème.
Tout à fait, sauf qu'Anjonas nous dit, il a peut-être raison, malheureusement, c'est que l'être humain ne devient responsable que face à la catastrophe. Et donc, évidemment, les chemins spirituels et les voies philosophiques nous enseignent une sagesse, mais que peu d'êtres humains suivent. Par contre, lorsqu'on est face à la catastrophe, tout le monde se réveille en disant « on peut plus continuer comme ça ». Mais le problème, c'est que jusqu'où on ira avant de pouvoir vraiment tirer les leçons des drames du passé.
Oui, je vais revenir effectivement sur votre refus, qui est extrêmement intéressant, de tomber dans la facilité d'opposer les idées ou les conceptions. Et ça me renvoie à un autre de vos ouvrages qui fait appel, je pense, à la sensibilité, qui s'appelle « L'âme du monde ». Et dans ce livre, j'ai eu le sentiment que vous vous attachez particulièrement à l'idée de la transmission. Et c'est vrai que la transmission, c'est quelque chose qui disparaît un petit peu aujourd'hui, derrière l'instruction, l'éducation, etc., etc. Donc, selon vous, est-ce qu'il y a des conditions particulières ou des qualités particulières à la transmission pour qu'elle puisse faire son œuvre, notamment si on renvoie à ce que vous avez dit tout à l'heure, au départ, nous sommes mus par l'inconscient.
Alors, vous avez raison, la transmission est un peu en train de disparaître et c'est dramatique. Parce que je pense que les personnes qui nous ont précédés ont vécu des expériences, ont appris des choses et qu'il est nécessaire de les transmettre aux générations futures. Et lorsqu'on voit des jeunes dont la seule formation aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, on se dit qu'effectivement, ils sont en train de perdre une sagesse acquise par des millénaires d'introspection, de connaissances, d'observation, etc. Et donc la transmission, elle est double. C'est à la fois la transmission d'un savoir, bien sûr, mais c'est la transmission d'un savoir-être. C'est les deux. C'est-à-dire qu'on transmet des connaissances et on transmet une manière d'être qui nous permet de vivre justement dans le respect, en harmonie avec les autres, dans la tolérance. Enfin, il y a des valeurs qui sont essentielles à transmettre. Donc, on transmet un savoir et des valeurs. Et c'est pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai créé une association qui s'appelle SEV, ça veut dire Savoir-être et Vivre Ensemble, où on forme des gens pour faire des ateliers de philosophie dans les écoles, pour que les enfants apprennent tôt à discerner, à développer un esprit critique, à débattre, à s'écouter, parce que c'est aussi, la transmission, c'est pas que transmettre des idées déjà acquises, c'est aussi transmettre les modalités qui vont permettre à des jeunes de faire des expériences qui vont leur permettre de progresser en humanité. Et donc transmettre, c'est pas simplement transmettre un savoir tout fait, c'est aussi transmettre les possibilités d'une expérience, la possibilité de refaire l'expérience que les autres ont fait avant. Et la philosophie en est un excellent outil, parce que par la réflexion personnelle, on peut redécouvrir des vérités universelles et se les approprier, beaucoup plus que si on les reçoit d'en haut. Et donc c'est pour ça que pour moi la transmission, c'est pas simplement transmettre un savoir tout fait, c'est le transmettre en permettant à celui à qui l'on transmet de refaire l'expérience par lui-même. Ce que le Bouddha disait de manière merveilleuse, en disant « il faut que si je dis quelque chose que tu n'as pas toi-même expérimenté, ne le crois pas un instant. »
Alors, c'est vrai que dans votre ouvrage, il y a un passage qui m'a interpellé particulièrement, peut-être que je ne suis pas le seul, c'est à un moment, vous laissez la place au miraculeux. C'est-à-dire effectivement à cette petite fille qui est soignée à distance, comme par miracle, d'une maladie où elle était complètement condamnée. Est-ce que vous pouvez donner une petite explication par rapport à ça ?
Moi, je suis persuadé que l'être humain a des forces cognitives extraordinaires, des puissances de l'esprit. Force de l'esprit dont parlait Mitterrand, mais il l'entendait dans un autre sens. Mais disons qu'il y a cette capacité de l'esprit humain à faire des choses que la science actuelle n'explique pas. Et je crois tout à fait que le Christ, par exemple, ou d'autres personnages dans l'histoire ont pu faire des miracles. Mais pas des miracles au sens d'une intervention d'un Dieu extérieur, surnaturel, qui va transgresser les lois de la nature. J'y crois pas un instant. Mais je crois que l'esprit humain a la capacité d'agir sur la matière de manière à faire quelque chose que la science n'explique toujours pas aujourd'hui parce qu'on n'a pas compris encore complètement comment fonctionne l'interaction de l'esprit et de la matière. La physique quantique est en train de nous en donner de plus en plus, de nous éclairer de plus en plus sur cette complexité incroyable de l'esprit et de la matière et comment les deux sont unis. Quand on nous dit que l'observateur en physique quantique influence l'expérience, c'est quelque chose qui était incompréhensible même pour Einstein. Et donc finalement, on a aujourd'hui une compréhension de plus en plus forte que l'esprit a un impact sur la matière. Et puis l'esprit, est-ce que c'est pas aussi une forme de matière? La matière, est-ce qu'il n'y a pas de l'esprit dans la matière? Donc tout ça est très compliqué. Mais je crois qu'effectivement, quand Jésus le dit, qui va faire des miracles, il le dit. Il dit au fond, c'est pas moi qui fais des miracles, c'est votre foi. C'est parce que vous avez foi, donc la puissance de l'esprit, que je peux faire des miracles. Si vous n'avez pas la foi, je pourrais rien faire. Ce qui veut bien dire qu'il y a quelque chose dans l'esprit humain qui est à la source du miracle. Et donc je ne crois pas au miracle en tant que phénomène surnaturel, mais à la possibilité d'agir sur la matière de manière non expliquée aujourd'hui.
En fait, si on somatise dans un sens, on pourrait somatiser dans l'autre.
Dans l'autre sens, exactement. Exactement.
Mais vous avez parlé de physique quantique, moi ça me ramène une question que je voulais vous poser. La limite entre physique et métaphysique, en fait, est en train d'exploser. Est-ce que vous venez de dire, le démontre complètement, l'évolution de la science va tellement vite aujourd'hui que cette limite est en train d'être dépassée, voire même, on aurait presque une interaction entre les deux. Certains grands scientifiques aujourd'hui aimeraient parler de gravitation quantique. On pourrait se dire, c'est de l'absurde, et pourtant, ces grands scientifiques pensent que ça peut être une solution. Donc, quelque part, on est aujourd'hui dans ce phénomène.
Oui. Où il y a un rapprochement de plus en plus entre, je dirais, la recherche scientifique qui va dans ces profondeurs-là et de cette complexité du réel qu'on n'avait pas exploré jusqu'à présent, et puis une certaine forme de métaphysique, c'est-à-dire pas toute métaphysique, c'est une certaine forme de métaphysique qui, par l'intuition, a compris des lois fondamentales de l'univers qui n'avaient pas du tout été encore explicitées par la science. Et là, je pense par exemple que on parlait du bouddhisme, il est évident que quand le Bouddha nous dit, il y a 2500 ans, tout est conditionné, tout est impermanent, tout est interdépendant. Qu'est-ce qu'il avait compris des lois fondamentales de l'univers intuitivement. Et c'est pour ça d'ailleurs que Spinoza nous dit l'intuition est la forme suprême de la connaissance. Il croit beaucoup, alors il nous dit la forme la plus basique, c'est l'opinion. Voilà, on apprend quelque chose, etc. Puis après, il y a la raison. La raison nous permet de critiquer, d'analyser. Et la science, c'est l'utilisation de la raison. On compare, on observe, etc. Et on en tire des conclusions. Il dit il y a une forme supérieure, c'est l'intuition. C'est une connaissance des choses sans avoir fait toutes les étapes du raisonnement. Et donc, il y a ce mystère de l'intuition humaine. Et d'ailleurs, les grands scientifiques sont des grands intuitifs. Ils commencent par avoir une hypothèse. Et l'hypothèse, c'est l'intuition qu'il faudra vérifier. Mais il faut l'avoir, l'intuition de départ. Et Einstein disait effectivement que...
Ce sont des paris.
Mais ce sont des paris, ce sont des choses. Pourquoi ils ont pensé rechercher ça? Et donc finalement, c'est pour ça qu'Einstein disait qu'il y a des grandes parentés entre les grands scientifiques et les mystiques. Il y a cette dimension extrêmement intuitive qui les habite. Et donc il y a ce rapprochement qui se passe beaucoup par l'intuition. Et je dirais que les anciens ont eu des intuitions fondamentales que la science va de plus en plus, à mon avis, valider d'un point de vue plus rationnel.
Vous parlez de mystère et vous évoquez évidemment avec Jung la synchronicité. Est-ce que ça ne fait pas partie aussi de ces...
Ben là, on est au cœur du lien, effectivement, entre la matière et l'esprit. Hein. C'est pour ça que Jung a travaillé... Alors, c'est quoi la synchronicité? Rappelons-le pour ceux qui ne connaissent pas ce concept. On observe tous, des fois, des étranges coïncidences. On pense à un ami qu'on n'a pas vu depuis 20 ans, il nous téléphone 10 minutes après. C'est incroyable, je pensais justement à toi. Comment notre esprit a perçu qu'il allait avoir ça dans la matière? Autre exemple, et Jung le raconte très bien, et un jour il fait une thérapie avec une femme qui lui dit qu'elle a rêvé d'un scarabée doré. Et au moment où elle dit ça, il y a un scarabée qui rentre par la fenêtre et qui se pose, un scarabée doré, sur le bureau. Quelle synchronicité entre les deux. Donc c'est une étrange coïncidence, mais qui a du sens. Et donc il nous dit une synchronicité, ce sont deux événements reliés entre eux, non pas par une cause, c'est pas forcément parce qu'elle a parlé du scarabée que le scarabée est rentré, a créé le mécanisme causal, mais ça a du sens. Le fait qu'il y ait les deux en même temps, et comment l'expliquer? Comment un phénomène physique et un phénomène psychique peuvent être reliés entre eux par du sens? Et alors, il a cherché l'explication pendant 30 ans avec Wolfgang Pauli, qu'il avait comme patient, et qui était un des fondateurs de la physique quantique, prix Nobel donc en 1945 de physique, et l'un et l'autre ont inventé une hypothèse, qu'il appelle la psychophysique, en nous disant, ça veut dire qu'au fond, il y a une sorte d'arrière-monde dans lequel, au-delà de l'espace-temps, au-delà des catégories de l'espace et du temps, auxquels notre intuition et notre inconscient sont reliés. Et que par l'intuition et par l'inconscient, nous avons connaissance de certaines choses qui ne sont pas limitées par les catégories de l'espace et du temps, à laquelle notre raison est soumise, donc elle est limitée dans la connaissance, et ça rejoint ce que disait Spinoza, et ça, évidemment, c'est indémontrable par des outils scientifiques. C'est juste une hypothèse qui pose en disant, au fond, nous pouvons avoir accès à un autre niveau de réalité, le monde est plus complexe, il y a une réalité visible et un réel invisible, auquel l'intuition et l'inconscient ont accès.
Frédéric, on va rester sur ce magnifique mystère, parce que on arrive au terme de cette émission. Néanmoins, nous avons l'habitude de faire un petit questionnaire, entre guillemets, de Proust. Est-ce que vous acceptez de jouer le jeu avec nous aujourd'hui ?
Avec plaisir, puis on verra bien si j'ai les réponses.
Absolument. Première question, c'est quel est le principal trait de votre caractère ?
J'en dirais deux, la curiosité et la générosité.
Quelle est votre vertu préférée ?
La bienveillance.
Et qu'est-ce que vous détestez le plus ?
Ce qui me met le plus en colère, c'est la mauvaise foi. Quelqu'un ne reconnaît pas qu'il a dit ça. Ou...
Nous, ça nous arrive jamais, de toute façon. Quelle est la qualité que vous préférez chez une femme, je vais mettre en premier, ou un homme ?
Je pense les qualités de cœur, la bonté.
Et quelles sont les fautes qui vous inspirent le plus d'indulgence ?
Celles qui sont faites par amour. Par exemple, Kant nous dit « il faut jamais mentir », mais je pense que des fois, il vaut mieux mentir pour protéger des gens. Notamment quand, sous l'occupation, vous protégiez un juif, vaut mieux dire que vous l'avez pas vu, plutôt qu'il est dans votre cave.
C'est clair. On a beaucoup parlé spiritualité. Quelle est, selon vous, la qualité principale requise pour conduire et mener à bien un projet spirituel collectif ? Ça, c'est de la question.
Il n'en faut pas qu'une. Il faut du discernement, il faut de la tolérance, il faut de la persévérance. Il faut beaucoup de qualités, il faut de l'humilité. Ça fait beaucoup, hein, mais j'en rajouterai 5 ou 6 autres, mais une seule, non, c'est impossible. Il faut du détachement, parce que sinon, on sera toujours déçu.
Et quelle est votre idée du bonheur ?
Moi, je dirais simplement apprécier la vie de manière simple, c'est-à-dire sans faire de grandes théories, simplement accueillir la vie comme elle est, de manière simple.
Est-ce que vous avez un héros favori dans la mythologie ?
Alors, dans la mythologie grecque, je suis fasciné par Ulysse. Enfin, je trouve que l'Odyssée, c'est un des plus grands livres de la littérature mondiale et que j'ai lu plusieurs fois. Et voilà, c'est un personnage extraordinaire.
Alors, j'ai une dernière question. Vous avez un peu répondu déjà, mais qu'est-ce que la transmission ?
C'est de faire passer à la fois un savoir et les modalités d'une expérience pour que les autres puissent expérimenter à leur tour ce qu'on a appris.
Frédéric Lenoir, un grand merci pour votre participation à Témoignages écossais. J'avais une dernière question que j'avais prévue, mais vous y avez répondu. Quel est le sujet de votre prochain livre ?
Eh ben, le désir, ça s'appelle d'ailleurs Le désir, une philosophie, et qui va sortir le 9 novembre chez Flammarion.
C'est bien noté.
Le rendez-vous est pris.
C'était Témoignage écossais, saison 3, épisode 5. Merci à tous ceux qui contribuent à cette émission sur les ondes et dans l'ombre, notamment Claude Guichard, Stéphane Demazur, Georges Bernat et Vicens, Christian Mercier, Guillaume Mignard, et comment l'oublier, le révélateur sonore de notre inconscient collectif, Julien Riquier, qui contribue à la qualité auditive de cette œuvre collective. À bientôt pour un nouveau rendez-vous de Témoignages écossais.